Bienvenue dans cette salle.
Attention, attention, attention.
C'est l'heure de la Formule Express.
Alors il va falloir faire vite.
Vite, vite.
Sagez. Allons, prêtons, prêtons, prêtons. Plus vite.
Gamin, allez, viens. C'est pourri, gamin.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Formule Express de retour à l'écran. Cette musique, vous la connaissez forcément, même si c'est parfois pour de mauvaises raisons. Car non, cette mélodie que l'on doit au grand Ennio Morricone n'a pas été composée pour la pub Royal Canin, mais bien des années avant pour un obscur film italien datant de 1971 au doux nom de Maddalena. Mais c'est surtout grâce au professionnel, troisième et dernière collaboration du trio Belmondo-Lautner-Audiard, dont je vais vous raconter la genèse que l'on peut qualifier de chaotique, que cet air est devenu célèbre. Le professionnel, c'est assurément l'un des films préférés des fans de Jean-Paul Belmondo, celui qui revient spontanément quand on évoque le grand Bébel. Si le film n'est pas exempt de défauts, j'en discuterai dans la deuxième partie avec mon camarade Mick, il reste encore aujourd'hui un polar à la française particulièrement fort et prenant, notamment grâce à son mythique final. Mais pour en arriver à ce résultat, tout n'a pas été si simple, loin de là. Avant de vous raconter la grande histoire de ce film, et pour tous ceux qui n'ont jamais vu Le Professionnel, ça parle de quoi ? Le Professionnel, c'est l'histoire de Jos Beaumont, un soldat d'élite de l'armée française chargé d'exécuter le président d'un pays d'Afrique. Mais une fois sur place, il est finalement lâché par son propre camp et capturé par l'ennemi. Après avoir réussi à s'évader, il rentre en France, décidé à se venger et à mener à bien sa mission.
Jocelyn Beaumont, il veut assassiner le président N'Djala.
Assassiner N'Djala ? Mais pourquoi ?
Nous l'avions chargé de cette mission il y a 2 ans.
Qui ça ? Nous ?
Votre prédécesseur, monsieur le ministre. Lorsqu'il a débarqué au Malagaoui, la situation politique n'était plus la même. Il n'était plus question d'exécuter N'Djala.
Donc vous avez rappelé Beaumont ?
Non, monsieur le ministre.
Vous l'avez vendu ?
Pas vendu, donné. Par raison d'État, c'est gratuit la raison d'État. Enfin, souvent.
Et que comptez-vous faire ?
Le nécessaire.
Nous sommes en 1980. Après la sortie du Guignolo, qui certes a rempli les salles mais pas autant que Belmondo l'espérait, la star a envie de changer de registre. Fini la comédie, Bébel a envie d'aventure. À tel point qu'il décide d'approcher pour son prochain film un cinéaste avec lequel il n'avait jusqu'alors jamais collaboré. Ce cinéaste, c'est Yves Boisset, un réalisateur spécialisé dans le cinéma politique à qui l'on doit notamment des films comme L'Attentat, Dupont-la-Joie ou Le Juge Fayard. Les deux hommes qui s'étaient déjà croisés sur le tournage de L'Aîné des Fers Chauds de Jean-Pierre Melville, sur lequel Boisset était assistant réalisateur, se lancent alors dans un projet intitulé Barracuda, un film ayant pour toile de fond le commerce des armes et la France-Afrique.
Le scénario avait été approuvé par Jean-Paul, tout semblait rouler, le film était très largement annoncé, et un beau jour, Jean-Paul Belmondo m'appelle et me dit, il m'appelle vers 7h du soir, il me dit « Faut que tu passes tout de suite à la maison, c'est très grave, il faut que je te parle tout de suite. » Il me dit « Écoute, je ne voulais pas que tu l'apprennes en lisant les journaux demain ou après-demain. Je ne fais pas ton film Barracuda et c'est très gentil, ton film sur le trafic des armes, sur l'engagement français, etc. Mais je ne le fais pas. »
Ce projet de film dérange en effet les plus hautes instances de l'État et des pressions commencent déjà à s'exercer auprès de Belmondo et d'Alain Sard qui devaient coproduire le film. Plus question donc de travailler avec Boisset. Son vieil ami et producteur Alexandre Mnouchkine propose alors à Bébel d'adapter le roman noir « Mort d'une bête à la peau fragile » de Patrick Alexander, un auteur anglais dont c'est le premier livre. L'acteur est séduit par cette histoire d'homme trahi par son propre pays et qui décide de se venger. Échaudé par l'épisode Boisset, Belmondo décide de jouer la sécurité et propose presque naturellement la réalisation à Georges Lautner. Si les deux hommes sont désormais de véritables complices, plus question cette fois-ci de s'amuser, d'improviser. Lautner et Belmondo, conscients des limites du Guignolo, veulent travailler autrement sur ce nouveau projet.
On a essayé de faire quelque chose de différent. On a essayé de faire un film un peu plus pensé, un peu plus réfléchi, un peu plus construit. Faire un film d'aventure où Jean-Paul a un rôle intéressant et où on raconte quelque chose et qui n'est pas une succession de sketchs comme l'était le Guignolo. C'est un spectacle aussi, mais un spectacle plus établi.
Après Flic ou voyou et le Guignolo, c'est tout naturellement que Michel Audiard est engagé pour écrire l'adaptation de ce livre anglais, de le remettre dans le contexte politique français de l'époque. Si Audiard se met au travail, ce projet, loin d'intéresser le célèbre dialoguiste qui travaille également en parallèle sur le scénario de garde à vue que mettra en scène Claude Miller, un projet qui lui l'emballe beaucoup plus. Il faut dire aussi qu'après une carrière bien remplie, on n'oublie pas en effet qu'Audiard, en plus de ses célèbres dialogues et scénarii, a signé la réalisation de pas moins de 10 films, il aspire désormais à des projets plus ambitieux que ceux que lui propose la paire Belmondo-Lautner. Audiard père demande alors à son jeune fils Jacques de l'aider à rendre tant bien que mal un scénario dans les délais impartis. Sans grande surprise, ce script est refusé par le producteur Alexandre Mouchkine, par Belmondo et par Lautner. Le cinéaste dîne alors avec Francis Weber, autre grand scénariste et qui travaille au même moment sur la réalisation de son second film, La Chèvre.
Et je dîne avec Lautner, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je mets en scène un film pour Belmondo, tiré de ce livre. Et je lui dis, je l'ai lu, c'est génial. Il me dit, ah bon, pourquoi? Et je lui dis, je raconte le scénario. Il me dit, mais j'ai pas du tout ça dans mon scénario, moi. Je lui dis, c'est dommage, parce que c'est ça le sujet. Et il me dit, c'est Audiard qui l'a écrit. Il me dit, il est très frappé comme ça. Et le lendemain, coup de fil, c'est Sania Nouchkine, le producteur, qui était un grand producteur, qui avait un accent russe très prononcé. Allô, Francis, Sania, à l'appareil. Je lui dis, qu'est-ce qu'il me veut? Il me dit, on est réunis avec Jean-Paul Belmondo, Michel Audiard et puis Georges Lautner. On aimerait que vous nous racontiez le sujet. Le scénario était déjà écrit par Audiard. Et j'arrive là-bas et puis je regarde cet aréopage comme ça et je me dis, merde, je suis un jeune scénariste et je suis en face du maître, là, Audiard. Qu'est-ce que je vais aller casser son travail? C'est absurde. Et je dis, est-ce que je peux parler à Michel Audiard 2 minutes avant? Non, allez, vas-y, je t'en prie, vas-y, etc. Et je vais dans un bureau à côté et je lui dis, Michel, ça me gêne beaucoup de parler de ton scénario parce que je suis obligé de le démolir pour vendre le mien. Mais non, avec sa gapette et son mégot. Mais non, tu peux y aller, vas-y, je m'en fous, vas-y. Bon, on arrive dans la salle de conférence de nouveau et je dis, voilà ce qui cloche dans le scénario de Michel Audiard. Et je commence à casser le scénario comme ça et je regarde et il dessinait sur une feuille de papier. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'il a déchiré la feuille de papier avec son stylo bille. Tellement c'était pénible. Et je me suis dit, ça doit être atroce. Imaginons que moi, je sois arrivé à être un scénariste, dialoguiste de renommée alors mondiale, et qu'il y a un jeune con qui arrive et qui casse mon scénario. Donc, j'étais de santé culpabilisé d'une certaine manière. Et puis, je ne suis pas crédité parce que j'étais ça s'appelle une consultation sur scénario. C'est-à-dire que vous arrivez avec l'œil neuf et vous dites, il n'y a pas d'escalier dans cette maison. Parce que ça saute aux yeux. Et à ce moment-là, on dit, il faut mettre un escalier. Ouais. Donc, je ne suis pas le maître d'œuvre. Mais j'ai écrit Le Professionnel du début à la fin. Et vous savez qu'il prenait en sténo quasiment Jacques Audiard. C'est-à-dire que c'est quand même très flatteur que ce type qui a fait une carrière ô combien brillante derrière, prenait en note pour amener ça à Michel Audiard, son père, et l'autre ajoutait une pincée de dialogue par-ci par-là.
Place au casting maintenant. Comme à leur habitude, Lautner et Belmondo vont faire appel à des amis, des habitués pour seconder la star. On retrouve entre autres aux côtés de Bébel, l'incontournable Michel Beaune, Jean de Sailly, Pierre Sinton, Bernard-Pierre Donadieu ou Elisabeth Margoni. Parmi les figurants, on trouve également la présence surprenante de Novika Zivkovic, un véritable truand en cavale. Occasionnellement garde du corps de Belmondo, il apparaît dans les scènes de réunion de crise. Si sur le tournage personne n'est au courant qu'il est recherché par la police, l'homme sera tué quelques années plus tard lors d'un braquage. On n'oublie pas bien sûr Robert Hossein dans la peau du méchant commissaire Rosen. C'est Belmondo lui-même qui proposa le nom de Hossein, pensant à juste titre qu'il jouerait le bad guy idéal.
On va l'arrêter. Le stopper.
Le stopper? Qui le stoppera?
Moi. Commissaire Rosen, de la brigade d'intervention. Les trucs expéditifs n'ayant pas fonctionné, je sais autre chose.
Les prises de vue débutent en mai 1981 en Camargue. Un tournage en Afrique étant trop lourd à gérer logistiquement et financièrement, l'équipe choisit le sud de la France pour créer les paysages du pays imaginaire du Malagaoui. Des centaines d'étudiants d'origine africaine de l'université de Montpellier sont recrutés pour jouer les figurants. Un village entier est également construit. Arrivé sur place la veille du tournage, accaparé par les échanges de dernière minute entre Audiard et Weber sur le scénario, Lautner découvre avec stupeur que les huttes sont trop éloignées les unes des autres. Impossible donc pour lui d'en avoir plus d'une dans le même cadre. Il décide donc d'improviser et de filmer toutes ces scènes au téléobjectif, ceci lui permettant d'avoir un point de vue plus éloigné. Le tournage se poursuit aux quatre coins de Paris, avec pour point d'orgue une longue course-poursuite qui se termine sur les escaliers du Trocadéro. Pour obtenir l'autorisation de tourner à cet endroit, il a fallu que le père de la star, sculpteur et membre de l'Institut de France, se porte garant pour que rien de ce monument de notre patrimoine national ne soit abîmé. Belmondo assure une nouvelle fois les cascades lui-même sous la direction de Rémy Julienne.
Sa principale qualité, c'était de faire une confiance absolue. Vraiment absolue, là je pèse mes mots. Surtout une qualité tout à fait exceptionnelle, en dehors de son agilité vraiment proverbiale, avec tout ce qu'il a pu faire. Et je me disais, mais comment il fait? Il n'a quand même pas cette formation de cascadeur.
Les prises de vue se terminent au château de Maintenon, où se déroule le dernier acte du film. Le plateau est totalement fermé aux curieux, car rien ne doit fuiter sur la désormais mythique scène finale sur la pelouse du château. Bon, je vais être obligé de spoiler cette fin pour tous ceux qui n'ont pas vu le film. Dans la première version du scénario, finalement coécrit par Audiard et Weber, Belmondo s'échappait en hélicoptère. Lautner tourne cette fin, mais trouve avec Belmondo qu'elle est trop conventionnelle, trop attendue. Le duo décide alors d'en tourner une seconde dans laquelle Belmondo est abattu au pied de l'hélicoptère. Satisfait de ce final, les deux hommes décident de retenir cette fin.
Monsieur le ministre, c'est une question de seconde.
Non, il y a l'aspect criminel de l'affaire, mais il y a aussi son aspect politique. Après les déclarations que Beaumont a fait à la presse...
Mais bordel de merde, qu'est-ce que je fais?
Si Philippe Sard a signé la musique des deux précédents films de Lautner, il ne remplit pas cette fois-ci, fâché avec Belmondo depuis une mésentente sur l'un des thèmes composés pour le Guignolo. La production sollicite alors l'immense Ennio Morricone pour signer la bande originale. Avant que l'auteur ne commence à écrire, Lautner entame déjà le montage du film avec le fameux Chai Mai, composé bien des années auparavant par ce même Morricone pour un autre film. Tout le monde s'accorde rapidement à dire que Morricone doit s'inspirer de cette composition, fruit de son propre travail, pour écrire la bande originale. Le génie italien accepte et livre donc une nouvelle partition. Une fois le montage terminé, une projection est organisée. À l'issue de celle-ci, c'est la déception qui domine. Audiard trouve le film tellement mauvais qu'il menace de retirer son nom au générique, ce qu'il ne fera finalement pas. La fin pessimiste effraie également les producteurs qui pensent que voir Belmondo mourir est synonyme de suicide commercial. Et puis la nouvelle partition de Morricone ne convainc pas non plus. Tout le monde trouve en effet que le thème composé en 1971 est beaucoup plus fort que celui nouvellement proposé par le musicien transalpin. Belmondo Lautner n'en démorde pas. Le héros doit mourir à la fin, c'est non négociable. Par contre, le duo est d'accord sur l'idée qu'il faut définitivement mettre en avant le thème initialement composé pour le film Maddalena, surtout pour la scène finale, tout en gardant pour les moments moins forts du film la partition nouvellement composée par Morricone. Le musicien italien se fâchera sévère devant cette décision, mais finira par pardonner ce choix quelques années plus tard, devant le succès de Chai Mai dans les bacs. En effet, finalement commercialisé en 45 tours, le thème se vendra à plus de 900 000 exemplaires. Belmondo fonde beaucoup d'espoir dans ce film et espère un carton au box-office.
Oui, c'est-à-dire, vous savez que c'est de plus en plus dur de trouver des bons scripts et des bons dialogues. Et là, j'ai eu la chance d'avoir Nouchkine qui m'avait trouvé ce livre, qui est un très bon livre avec une histoire très forte derrière. Et Audiard et Lautner ont fait un très bon travail et ont fait un film vraiment très fort avec des beaux dialogues et de l'action. En plus, j'ai la chance d'avoir des partenaires formidables comme Robert Hossein, Michel Beaune et Jean-Louis Richard. C'est un peu une tradition qui se perd parce qu'on... On a déjà du mal, disons, à écrire pour une vedette, donc on écrit encore moins pour les seconds rôles. Et là, si vous voulez, tous les rôles sont très beaux et fort bien tenus.
C'est une nouvelle fois René Château qui se charge de la promotion du film qu'il veut gigantesque.
En 81, quand il fait Le Professionnel, il est au sommet de sa carrière quand même. C'est un film par an, les titres c'est presque toujours les mêmes, on change juste l'adjectif, enfin à quelques exceptions près. Les affiches sont les mêmes, il revient à des affiches dessinées, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il y a Belmondo en haut du titre, dans les mêmes caractères, enfin il y a une sorte de... Et puis il sort dans de plus en plus de salles, il y a des vraies campagnes de pub, enfin c'est comme il disait à l'époque, on sort à l'américaine.
Le Professionnel sort dans les salles le 21 octobre 1981 et tous les doutes que certains pouvaient avoir sont rapidement effacés. Si la presse n'est une nouvelle fois pas vraiment tendre avec Bebel, le film est un véritable carton et finira par se classer 4e du box-office de l'année 1981 avec un total de 5 300 000 entrées derrière la chèvre d'un certain Francis Weber, le dessin animé Rox et Rookie et Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Le Professionnel restera le plus grand succès commercial de la carrière de Lautner et parmi ceux de Jean-Paul Belmondo.
Je voulais pas la gifler, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé.
Moi non plus, je voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé.
T'as voulu être vache, commandant. C'était le boulot, non? J'aime pas donner des baffes.
T'as raison. Le boulot, c'est le boulot. Le croissant, c'est pour mon ami.
Le Professionnel est disponible en DVD et Blu-ray pour les supports physiques et en VOD. que reste-t-il du professionnel 40 ans après sa sortie? Pour en parler, j'accueille une nouvelle fois mon camarade de retour à l'écran, Mick. Salut Mick.
Et salut.
Alors raconte-nous ton histoire autour du professionnel.
Le professionnel, moi je l'ai découvert en VHS, un peu comme les autres, comme les autres films. Et c'est un film qui m'a curieusement marqué quand j'étais gamin. Alors d'abord par la musique, je crois même avoir découvert la musique avant le film. Et la musique exceptionnelle de Morricone. Et un sentiment étrange de tristesse en fait qui s'en dégage. Et même quand je regardais le film, je l'ai vu plusieurs fois gamin, et j'ai eu une sorte de rapport un peu étrange entre amour-haine en fait, des choses qui me plaisaient et des choses que j'aimais moins, notamment en fait le final quand j'étais gamin. Parce que le fait qu'il meure, etc., pour un comédien qu'on aime beaucoup, qui est assez drôle, attachant durant tout le film, c'était un peu dur, surtout quand on est gamin en fait. Aujourd'hui, je trouve ça hyper fort en le revoyant, je trouve ça vraiment très 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 fort tout ce final. Pas forcément le fait qu'il meure, mais tout ce qui précède. En fait, tout le moment où il marche comme ça le long pour se diriger vers l'hélicoptère, je trouve ça hyper, hyper fort, cette montée en tension avec l'hésitation de est-ce qu'on le tue, on le tue pas, machin. La suite est inévitable, mais je trouve ça vraiment très, très fort. Mais à l'époque, j'avais un double sentiment étrange. En revanche, ça reste quand même un de mes bébels favoris. Même quand j'étais gamin, il y avait quand même suffisamment de choses à l'intérieur qui me plaisaient pour en faire un de mes favoris, quoi. Plus que l'As des As, par exemple. Et toi?
Alors moi, j'ai d'abord découvert l'existence du professionnel par son affiche à sa sortie en 81. En fait, cette affiche avec Belmondo, avec son gros canon, son gros flingue, sur fond rouge, tout ça, ça m'avait marqué. J'étais gamin, j'avais 6-7 ans à cette époque-là, et il y avait des affiches de partout, parce que la campagne marketing de René Château était énorme, il y en avait de partout. Hein, c'était l'événement, la sortie du film était un événement, et dans notre petite ville de province, Grenoble, il y avait des affiches de partout, devant les cinémas et machin. Donc, comme je faisais souvent le tour des cinémas avec mon père ou mon grand-père, cette affiche-là m'avait, bien sûr, elle m'avait marqué, elle m'avait impressionné. Voilà, c'était Belmondo, le gros flingue, le machin. Enfin, il y avait quelque chose dans graphiquement dans cette affiche qui m'avait impressionné. Mais pourtant, je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Le film, je l'ai découvert 3 ans plus tard, pas du tout en France, pas du tout à Grenoble, mais à cette époque-là, je vivais avec mes parents en Afrique, au Burundi, à Bujumbura, et le film était diffusé dans le cinéma d'un hôtel français, de l'hôtel Méridien, qui n'existe plus depuis. Et un peu étonné à l'entrée, parce que on a demandé à mes parents s'ils étaient sûrs que je pouvais voir le film, et mes parents disent oui, bien sûr, c'est un film avec Belmondo, il n'y a pas de problème. Et parce que là-bas, le film était interdit au moins de 14 ans. Alors qu'en France, le film était tout public, mais là-bas, il était interdit au moins de 14 ans. Donc je suis bien rentré dans la salle. Et en fait, c'est vrai que par rapport au bébel qu'on connaît, qu'on avait pu voir, il y avait une certaine noirceur, il y a un peu de violence. Et donc, j'avais beaucoup aimé ce film, et je vais pas redire que j'étais scotché devant, mais presque. Mais instantanément, ça a été un film qui est resté dans ma mémoire. Ensuite, je l'ai revu beaucoup plus tard, quelques années plus tard, lors de ses nombreuses diffusions à la télévision, le fameux cinéma du dimanche soir de TF1, et puis après, bien sûr, en vidéo, VHS, DVD, Blu-ray. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un film que je revois encore très régulièrement, encore comme les deux autres dont on a parlé, et c'est un film que j'aime beaucoup pour les mêmes raisons que toi, parce que c'est un film un peu à part, un peu plus sérieux, un peu plus sombre, un peu plus solide aussi même s'il y a beaucoup de bémols, on en parlera, qui sont comblés justement par l'utilisation de la musique. Ouais. Mais c'est un film qui aujourd'hui que je regarde encore régulièrement. Peut-être l'un de mes favoris avec Peur sur la ville de cette période très starifiée de Belmondo. C'est certainement mon favori avec Peur sur la ville. Et derrière, il y a Flic ou voyou, mais le professionnel a quand même une place particulière.
Moi, mon préféré, ça restera quand même Peur sur la ville. Je trouve que le film est juste parfait, il est super, c'est très giallesque, tout ça. Mais celui-là, j'ai vraiment pris du plaisir à le revoir là pour l'émission. Là. Je ne l'avais pas vu peut-être depuis 15 ans. D'ailleurs, la dernière fois que je l'avais vu, j'avais pas accroché en fait. J'avais été jusqu'au bout, mais je l'avais trouvé presque naze en fait. J'étais pas dedans, ça m'avait déplu, il y avait plein de points négatifs dont on va parler qui m'avaient vraiment gêné, et je sais pas, j'étais pas dedans. Et là, étrangement, en le revoyant, j'ai vu aussi toutes les qualités du film. J'aime beaucoup cette idée du mec, du barbouze qui a été un peu trahi et qui va revenir pour mettre la pression à ses ex-employeurs, etc., en les tournant en bourrique. Ça rappelle vraiment le schéma de Coup de tête de Jean-Jacques Hano, justement écrit par Weber. Et je trouve que ça mériterait presque même un remake, hein, vraiment, parce que la structure en elle-même est vachement bien. Et emporte le morceau jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai aussi que parmi les bémols, on a des trucs qui sont difficilement lisibles en 2021. Notamment, bon, bah, déjà la place de la femme à l'intérieur du film, elle est un peu discutable. Je pense à sa femme, à sa maîtresse, à une attaque de sa femme par une sorte de fille un peu étrange, probablement lesbienne, mais très très mal décrite. Et puis en plus, elle n'existe le temps que d'une scène un peu malaisante.
Mais moi, tu vas la dire la vérité, j'en suis sûre. Tu sais que t'es bien foutue. Là, tu es drôlement contente de te revoir, Beaumont. Après 2 ans. Tu as les yeux cernés, madame. Vous avez dû en faire des trucs cette nuit. Des trucs, vraiment. Des trucs. Après une nuit pareille, t'as pas envie de prendre une douche. Une douche bien chaude.
Non.
Une bonne douche chaude, et puis très froide.
Non.
Et puis très chaude.
Non.
Je te savonnerai, tu vas voir ce que je peux faire avec un savon.
Non. Non. Je vous en prie. C'est ce jeu.
Oui, c'est malaisant. Je comprends pas l'intérêt de cette scène, en tout cas de la présence de ce personnage qui, comme tu le dis, n'apparaît que cette scène. Enfin, il y a aucune justification de sa présence, juste pour amener un côté un peu vicelard, un peu malaisant. Et pour le reste, je te rejoins aussi. C'est il y a ce côté un peu homme à femme de Belmondo avec sa. Alors, il porte beaucoup d'amour à sa femme, en même temps, il porte beaucoup d'amour à sa maîtresse.
Ouais,
alors,
c'est quand même compliqué, ça.
Ça existe toujours en 2021, hein, on va pas se leurrer.
Oui,
mais,
tout à fait, ouais.
Mais c'est vrai que le montrer à l'écran de cette façon-là, d'une manière très assumée, très.
Valorisé, presque.
Comme si c'était valorisé, tout à fait. C'est un peu limite dans le. Alors, on remet dans le contexte de l'époque,
oui,
voilà, il y avait ce côté très. Malgré tout très macho, très patriarcal du personnage de Belmondo et de Belmondo lui-même, c'est malgré tout.
Oui,
oui. Mais c'est vrai que tu remets ça dans le contexte de l'époque. Voilà, après aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu limite, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pareil, il y a aussi quelques petites blagues très colonialistes, etc. Bon, c'est pas ce qui a le mieux survécu avec le temps. Il y a aussi une forme d'humour bizarre qui revient parfois. Alors, pour le meilleur, comme avec le croissant, le coup, tu vois, l'entrée de champ du croissant dans le café de Donadieu, et puis qui suit avec une châtaigne, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais il y a une espèce d'aigle à deux têtes, en fait, parce que le film est quand même assez noir. Et puis des moments, il y a de l'humour très bébelle, en fait. Hein. Donc du coup, il y a une sorte de roue libre un peu qu'on retrouve à la fois dans Flic ou Voyou et Le Guignolo. Mais les profils des films, je trouve que se destinent à avoir cet humour-là intégré au film. Alors que dans Le Professionnel, la noirceur du propos, dès le départ du film, rend les scènes humoristiques un peu étranges, un peu décalées, pas toujours bien intégrées. Ouais.
Ce qui me dérange vraiment dans ce film-là, alors qu'on a des moments qui sont quand même hyper forts, le duel, parce qu'on peut appeler ça un duel avec Robert Hossein, qui est super fort, super sombre, super dur, super beau aussi, dans un certain sens. Et puis ces moments-là, il y a une sorte de schizophrénie, en fait, où Belmondo n'arrive pas encore à se détacher, à revenir à quelque chose de sérieux, à se détacher de ses personnages des deux précédents films, comme tu le disais très bien, de Flic ou Voyou, et surtout du Guignolo. Et Lautner peut pas s'empêcher,
ouais.
Tous les deux peuvent pas s'empêcher à ramener de ces notes-là, alors qu'ils en ont pas besoin, que ça sert à rien, comme s'ils avaient peur aussi que le fait qu'on ait complètement changé de registre entre le guignolo et le professionnel fasse fuir, ou en tout cas déstabilise le spectateur. Alors que c'est une connerie, parce que quelque part, c'est à la fin, c'est contre-productif et ça amène même des scènes malaisantes, en effet.
Mais justement, moi, par rapport à, tu vois, au combat avec Rosen, je trouve que les points d'humour qu'il y a dans le film potentiellement peuvent griller un peu la force de ce duel comme ça un peu Sergio Leonesque entre les deux, parce que on a vu des petits trucs du Bourg, on dit ouais c'est presque un peu limité. Il y a une partie de moi qui adore cette séquence là et une partie de moi qui trouve ça presque ridicule en fait. C'est
presque comment dire caricatural.
Je t'avais dit que je serais toujours derrière toi.
Mais ça, cette séquence là elle reste quand même hyper forte et hyper marquante, et quand tu te remémores le film, c'est quand même une des scènes qui ressort, avec aussi je pense que tu vas en parler, de la course-poursuite qu'il y a sur le Trocadéro.
J'allais y venir, parce que c'est la séquence Trocadéro, j'avais complètement oublié cette séquence là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que vraiment elle est super bien foutue. C'est hyper étonnant, parce que quand tu vois aujourd'hui le Trocadéro et tout ça, tu dis mais déjà tourner une séquence comme ça à cet endroit-là avec les escaliers, les trucs et tout ça, c'est dingo. Et puis elle est hyper prenante, très très bien filmée, et elle t'accroche quoi, vraiment. C'est vraiment le clou du film. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment assez, assez extra par rapport à même à toutes les autres cascades qu'on a déjà citées, et dans Le Guignolo et dans Flic ou Voyou. Ça fait vraiment partie des choses qu'on cite finalement assez peu, mais que je trouve assez extraordinaire. Quoi.
Ouais, c'est une super course-poursuite qui est assez longue, hein, et qui est hyper spectaculaire, hyper bien découpée, hyper bien montée, parce qu'il faut parler du montage de cette scène-là. Elle est très très bien montée, alors que le film n'est pas très bien monté dans sa globalité.
Il y a
quelques trucs qui pêchent, des raccords, des faux raccords. Enfin, c'est un peu récurrent chez Lautner. Hein.
Oui.
Lautner, comme tu le disais dans un précédent, je crois que c'est pas
Verneuil.
Lautner,
quoi.
C'est pas comme tu dis, c'est pas Verneuil. Mais cette scène-là est particulièrement bien montée.
Ouais.
À ne pas prendre au second degré cette phrase-là.
C'est la séquence. On parle de la
séquence. C'est la séquence. On parle que de la séquence et pas de Bébel. Parce que j'en sais rien en fait.
On sait pas. Hein.
On en sait rien et c'est pas grave. Et tant mieux. Mais non, c'est vrai que cette séquence-là, elle est spectaculaire et elle fait partie aussi. Enfin voilà, c'est souvent dans ces trois films-là, les trois Bébel Lautner, on retient beaucoup des séquences particulières, des scènes entières parce qu'ils sont extrêmement marquantes. Bien sûr, comme tu le disais précédemment, il y a ce final qui est assez assez dingue et qui est aussi très bien monté. Avec d'un côté Donadieu qui attend le feu vert pour savoir s'il faut tuer ou pas Belmondo, toute cette montée et cette musique de Morricone aussi, ce découpage, le montage et le découpage de toute cette scène hyper forte, elle conclut parfaitement le film, et c'est ça qui fait là aussi la force, et pourquoi on retient aussi le Professionnel comme un de nos bébels favoris en tout cas, parce que justement il y a cette scène finale, cette conclusion qui est extrêmement forte, inédite, inattendu.
Ouais.
Il y a une autre scène que j'aime beaucoup, c'est la scène où il va voir son ami Michel Beaune.
Ah putain, mortel. Mortel. C'est une des meilleures scènes du film.
Voilà, c'est juste une scène de dialogue, mais qui est extrêmement bien montée. Les dialogues sont très très forts. Et l'échange en fait, et le dilemme aussi, c'est vraiment une scène autour d'une amitié et d'un dilemme autour de cette amitié. Je trouve cette scène extrêmement forte. Elle n'est pas souvent citée, voire jamais citée, mais moi, c'est une de mes scènes favorites du film.
Ouais, parce qu'en gros, il est trahi par un véritable ami. C'est vraiment un ami proche et qui a changé, en fait, hein, qui a changé d'état d'esprit et qui essaye de se ranger et qui essaye même de faire ranger Belmondo. Et c'est... on a un échange assez tendu avec des bons mots bien piquants... écrit par Audiard probablement, hein, qui sont super beaux. Et enfin sur les trois films là dont on a parlé, hein, Le Guignolo, Flic ou Voyou et donc Le Professionnel, enfin Michel Beaune a un vrai personnage à défendre, beaucoup plus complexe que dans les deux autres, même si dans les deux autres à chaque fois ses apparitions sont succulentes, mais là vraiment il y a un vrai personnage hyper intéressant, justement pluridimensionnel, tout ça, parce qu'on comprend aussi pourquoi il en arrive là, mais on peut pas s'empêcher de se dire que c'est un bel enfoiré, quoi.
J'ai souhaité te rencontrer pour que tu t'arrêtes pendant qu'il est encore temps, Joss. Ils vont t'abattre comme un chien. Et puis tout ça n'a plus aucun sens. Depuis 2 ans, les choses ont complètement changé. La politique, les circonstances ont changé.
Oui. Moi aussi, j'ai changé. Tout a changé. Sauf Jala et le service. Et si c'était bien de tuer Jala hier, c'est bien de le tuer aujourd'hui.
C'était peut-être pas bien de le tuer hier.
Alors fallait pas me convaincre que ça l'était.
Je comprends pas. Je comprends plus ton entêtement, Joss. Mais Joss, t'as pas compris que c'est fini? Cuit? Raté?
Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du professionnel. On arrive à la fin du mini-cycle Belmondo-Audiard-Lautner. On a pris beaucoup de plaisir à remettre en lumière ces trois films qui restent des films populaires, des films qu'on aime beaucoup, même si chacun a ses défauts. Mm-hmm. C'est loin d'être des chefs-d'œuvre, hein, soyons honnêtes, mais il y a la fibre nostalgique qui joue, il y a aussi l'amour qu'on a et qu'on aura toujours pour Belmondo, en tout cas pour ma part.
Tout à fait,
voilà,
ouais.
On avait envie de lui rendre hommage à travers ces trois films qui, encore une fois, je le répète, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais en tout cas, c'est des films qui nous ont marqué, nous, dans notre enfance et notre adolescence. Et on voulait vous partager un peu ces nos ressentis, et en tout cas notre nostalgie autour de ces films et autour de l'acteur Belmondo.
On se retrouve très vite pour de nouvelles remises en lumière. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralecran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
You talking to me?
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat?
C'était pas ma guerre!
Back in full force.
Quelle est votre devise?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement, là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.